Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre journal des sports du 14 avril 2023. Allez, on commence tout de suite avec maintenant le sommaire de cette émission. Tout d'abord, nous allons parler handball, vu que le Phoenix a joué hier face à Chartres. Une belle victoire dont on fera le débrief au tout début de cette émission. On parlera également en bref, du match de Montpellier face à Célestat et de Nîmes face à Dunkerque. On parlera également ballon rond avec la rencontre de ce soir. La 31e journée de Ligue 1 débute avec une plutôt belle affiche, TFC Olympique de Lyon, deux équipes qui ont des choses à se prouver en Ligue 1. On parlera également de la rencontre de Montpellier qui affrontera Lille ce week-end. On parlera bien sûr l'inévitable rugby et le Stade Toulousain qui rencontre ce dimanche à 21h05 le Loup de Lyon. Il y aura également d'autres rencontres dont on fera l'avant-match, comme par exemple Montpellier face à Castres Olympique, un petit derby de deux équipes qui étaient en finale l'année dernière, mais qui ne sont plus aussi performants. Également la rencontre entre Pau et Clermont, ainsi que Toulon face à l'USAP, donc de Perpignan. On terminera brièvement avec un peu de basket. Voilà, on a fait le tour de notre sommaire. Pour cela, je suis Chaménis, je serai votre animateur de ce journal des sports. Je suis accompagné de mes chroniqueurs préférés, à savoir Enzo Châtel et Tom Ribaud. Bonjour.
Bonjour, bonjour Cham.
Alors très bien, on va débuter tout de suite avec la victoire de nos Toulousains hier face à Chartres. Une victoire au mérite, 39-32. On va vous rappeler les enjeux de cette rencontre, car les deux équipes avaient beaucoup de choses à jouer lors de ce match qui ouvrait cette journée de l'Ikimoli Star League. Enzo, est-ce que tu peux nous parler des deux équipes et du contexte de cette rencontre?
Tout à fait. Alors d'un côté, on a un Toulouse qui joue la place à l'Europe, et de l'autre côté, on a un Chartres qui va surtout jouer la relégation. Ils vont essayer de se maintenir dans cette Star League. Donc pour ce qui est de Toulouse, sur les cinq derniers matchs, du plus récent au moins récent, ils ont une victoire à domicile donc face à Chartres, une victoire à l'extérieur face à Créteil, une défaite à domicile face à Nîmes, une défaite à l'extérieur contre Nantes et une défaite contre le PSG. C'est pas des très bons résultats sur le papier, mais c'est quand même contre des grosses équipes, Nîmes 5e, Nantes 3e et Paris 2e. Ensuite, sur cette saison, ils sont avec 13 victoires, 8 défaites et 3 nuls. Et ils sont surtout très bons à domicile avec seulement 2 défaites et 1 nul en 12 matchs. C'est aussi la 3e meilleure attaque du championnat avec 769 buts, mais c'est aussi malheureusement la 5e pire défense du championnat avec 738 buts encaissés. Pour ce qui est de Chartres, ils sont 14e au classement. Sur les 5 derniers matchs, ils ont une défaite à l'extérieur donc contre Toulouse, une défaite à domicile contre Istres, une défaite à l'extérieur contre Pays d'Aix, une victoire à domicile contre Limoges et une défaite à l'extérieur contre Montpellier. Si on va un peu plus loin, c'est une seule victoire en 2023 pour Chartres. Sur toute la saison, ils sont à 6 victoires, 17 défaites et 1 nul. C'est la 5e pire attaque du championnat avec 687 buts et c'est la 4e pire défense avec 739 buts encaissés.
Parfait, merci beaucoup Enzo. On va vous résumer cette rencontre en quelques mots, nous on y était. Le match a débuté plutôt lentement, les deux équipes se cherchaient 0-0 jusqu'à la deuxième minute ou l'ouverture du score. On pensait qu'elle allait être chartraise, mais pas du tout. Un premier gros arrêt de Jeff Lettens qui du coup va lancer cette rencontre côté toulousain qui va permettre aux Toulousains d'ouvrir la marque juste après. Et Jeff Lettens, encore une fois, va dans les 10 premières minutes de cette rencontre se démarquer, faire plusieurs gros arrêts permettant de faire pencher la balance côté toulousain, 8-6 à la 10e minute. Encore un arrêt de Jeff Lettens juste après sur une pénalité et qui permet donc aux Toulousains de rester à 18 puis à 11-8 dans la foulée. Au final, à la mi-temps, 19-15, on voit que les Toulousains ont chaud, mais s'en sortent bien. Il y a un événement qui vient marquer justement ce match, c'est le carton rouge de Mathieu Marmier à la 29e minute sur une contre-attaque donc chartraise. Il prend carton rouge et laisse ses coéquipiers en infériorité numérique. Seulement, le Phoenix s'en sort très bien et continue son offensive. 24 à 8, une bonne seconde mi-temps, en tout cas, qui est lancée par nos Toulousains. Mais on sent quand même qu'il est difficile de gérer cette infériorité numérique. 27 à 22, donc à la 44e minute. Les Chartrais reviennent à 28 points, mais toujours aussi décisifs. Les Toulousains marquent à chaque fois et ça fait 34 à 28 à la 53e pour faire une idée. Au final, c'est une victoire 39 à 32, bien méritée pour nous Toulousains qui n'ont pas cédé face à la pression. Ils sont désormais 5e au classement avec 27 points et Chartres est 14e donc avec 13 points. Ça sent pas bon. Pour eux, au niveau de la relégation, ils ont beaucoup de pression dans cette fin de saison. Pour le Phoenix, c'est une opportunité. Ils reviennent donc à hauteur du coup de la 5e place détenue par Nîmes, qui jouera donc ce dimanche. Donc on en parlera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Pour nos amis nîmois. Et justement, ça permet à Toulouse de remettre un pied dans l'Europe. Cette course à l'Europe, elle n'est pas finie.
Tout à fait, Hicham, ils ont fait un très bon match. Moi, je trouve que c'est de bon augure, oui, pour cette course à l'Europe. Parce que malgré ce carton rouge, ils ont quand même su jouer à 6 contre 7. Et ils ont gagné et de la bonne manière, parce que 7 buts d'écart, c'est quand même pas rien.
Ouais, exactement. Et puis Tom, il reste plus qu'une grosse échéance en vrai pour nos Toulousains, pour le Phoenix, continuer à aller chercher cette cinquième place significative de qualification européenne.
Ouais, c'est ça. Après, ils ont un calendrier plutôt facile, mais le gros match, ça sera contre Chambéry. Et c'est là où la saison pour l'Euro, en tout cas pour la qualif, va se jouer pour les Toulousains.
Exactement, tout va se jouer là. On se demande du coup si la défaite plutôt face à Nîmes n'a pas déjà été effacée en termes de retard. En tout cas, nos amis nîmois joueront ce week-end face à Dunkerque, pardon. On en parlera tout à l'heure. Avant ça, on va parler un peu des hommes du match. Je ne sais pas si vous en avez particulièrement, Enzo. Pourquoi moi je vais te dire les miens en tout cas, mais tu vas me dire si tu es d'accord avec moi personnellement.
Ouais, dis-nous.
J'ai adoré la rencontre de Frédéric Pedersen, auteur de 8 buts pour l'un des hommes du match. Il y a aussi Nemanja Ilić en très grande forme. Nemanja Ilić, il a marqué 7 de ses 8 tentatives. Est-ce que Nemanja Ilić n'est pas dans une bonne forme en ce moment, les gars?
Oui, très bonne forme. Après, autre homme du match, pour moi, j'aurais dit Jeff Lettens quand même. Il a fait un très bon match au cage et il a quand même marqué un but. C'est assez rare quand on est au col, mais c'est surprenant, ouais, ça fait plaisir.
Ouais, exactement, Jeff Lettens, on l'a dit, hein, dans la première mi-temps, il a été d'une grande utilité. En seconde mi-temps, un peu moins en vue, car remplacé en cours de jeu donc par le numéro 55, Paul Théodore. Honnêtement, Jeff Lettens a été d'une très grande utilité, avec plusieurs arrêts déterminants en début de rencontre, qui a permis aux Toulousains tout simplement de remporter cette rencontre, de prendre l'avantage au bon moment. Et Nemanja Ilić, du coup, qui jouait face à son frère, Vanja Ilić, qui n'a pas été aussi chanceux lors de cette rencontre, vu que c'est une défaite au final pour les Chartrais, qui vont aller jouer la relégation dans une ambiance très tendue. Ils ont qu'un point d'avance pour l'instant, provisoirement, sur le bas de tableau. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Il y avait deux frères Ilić au Palais des Sports hier soir. Concernant Nemanja Ilić, 7 buts sur 8 tentatives, on va l'écouter à notre micro. On l'a interviewé, donc il nous débrief cette rencontre.
On a joué des débuts sérieux, on savait que ça allait être dur. Ils sont un peu diminués, ils n'ont rien à perdre. Là, ils sont à 2 points des zones rouges. On savait qu'ils vont jouer jusqu'au bout, ils vont pas se relâcher. Nous, on devait faire notre jeu. Et ce qu'on a fait, à la fin, on a pris un peu trop de buts en deuxième mi-temps, je pense. Première aussi, ouais. C'était pas un bon match, mais c'est une victoire, c'est ce qui est plus important.
Voilà, parfait. Voilà Nemanja Ilić qui souligne la victoire. C'est la plus importante personnellement, parce que c'est sûr que revenir du coup avec un point d'avance sur Nîmes, c'était pas chose aisée. On pensait pas que ça allait arriver directement après la défaite face aux Nîmois il y a 2 semaines. Justement, nos Nîmois affrontent Célestas ce week-end. C'est pas Célestas, non?
Ouais, je te corrige. C'est Nîmes contre Dunkerque ce week-end. Donc Nîmes qui pour l'instant est 6e au classement, avec un match de retard sur Toulouse. Donc ils ont besoin d'une victoire s'ils veulent repasser à cette 5e place synonyme d'Europe. Donc Dunkerque, eux, sont 8e, Ça ne va pas être un match facile pour les Nîmois. Nîmes qui n'est pas en très bonne forme à domicile, avec seulement 5 victoires en 11 matchs à domicile. Par contre, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et seulement une seule défaite face à Chambéry la semaine dernière. Pour ce qui est de Dunkerque, c'est 3 défaites sur les 5 derniers matchs, c'est un peu plus fébrile. Et sur les 5 dernières confrontations entre les deux équipes, c'est 4 victoires pour Nîmes et un match nul. Donc Nîmes part favori, mais c'est pas gagné d'avance, la moindre erreur, et Toulouse reprend la 5e place. Un match à suivre de près donc pour les supporters toulousains.
Parfait, et aussi pour nos amis nîmois du coup, Lucam qui a beaucoup de choses à jouer ce week-end. On va parler maintenant de Montpellier qui affronte finalement Célesta. Tu peux nous en dire plus Enzo ?
Tout à fait, donc ils vont affronter Célesta aujourd'hui même à 20h. Un match logiquement assez simple pour les Montpelliérains à domicile face au dernier du championnat. Donc c'est la meilleure défense face à la pire attaque du championnat. Pour les 5 derniers matchs entre les deux équipes, on est sur 5 victoires de Montpellier. Ça devrait, sans trop souci, conforter leur seconde place en Star League. Une victoire, ça mettrait les Montpelliérains en confiance avant leur match retour de quart de finale d'European League. Donc l'European League, c'est la deuxième ligue européenne, juste derrière la Ligue des Champions. Et ce sera face au Sporting. Pour rappel, au match aller, il y a eu 32-32 chez les Portugais. Et pour rappel, Montpellier est deuxième de Star League avec 40 points et Célesta est 16e, soit dernier avec seulement 9 petits points.
Parfait, on va suivre ça donc de près. On va fermer cette page handball et maintenant se lancer sur le ballon rond avec le Toulouse FC qui affronte ce soir pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 l'Olympique de Lyon. Donc on parle de Lyon, ça sera pareil face au Stade Toulousain. Je ne sais pas si c'est du coup la ville ou le Lyon, parce que là on va voir que pour nos deux équipes, Lyon c'est la bête noire de Toulouse, en tout cas que ce soit pour le TFC ou pour le Stade Toulousain. On aura l'occasion de parler rugby tout à l'heure. Du coup, globalement, on va parler du coup de cette rencontre. Côté absent, le TFC ne pourra pas aligner du coup Raphaël Ratao qui est touché au genou après un contact face à Annecy. Brecht De Jagereux est blessé à la tête, est sorti blessé à la tête du coup avec un protocole commotion qu'il doit respecter face à Montpellier la semaine dernière. Ça fait du coup une grosse
perte au milieu.
Ouais, exactement, ouais. Perte au milieu. C'est dommage, mais on aura peut-être du coup l'occasion de voir Denis Genrot ou bien Vincent Sierro justement pour essayer de briller dans ce milieu toulousain, dans cet entrejeu. Également, Michael Dessler ne disputera pas cette rencontre, il est suspendu. Et Rasmus Nicolaisen ne sera pas, en tout cas ne composera pas la défense de Toulouse pour des raisons personnelles. Ensuite, côté Lyon, il y a Bradley Barcola, l'homme en forme du coup de Lyon, qui, heureusement pour les Toulousains, ne disputera pas cette rencontre. Il est suspendu et il faut savoir qu'il est impliqué sur 11 buts cette saison, toute compétition confondue. Buteur la semaine dernière, buteur également face au Paris Saint-Germain, en grande forme. Amin Sarr et Malo Gusto, eux, sont blessés et ne disputeront pas cette rencontre. On a parlé du coup de bête noire pour Lyon, Enzo. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, tout à fait. Alors, sur les 5 derniers matchs entre ces deux équipes, on est sur un nul cette saison au Groupama Stadium, un partout. Et sinon, c'est 4 défaites pour le TFC, 3-0 en 2020, 4-1 en décembre 2019, 2-3 en novembre 2019 et 5-1 en mars 2019. Donc Lyon, c'est la véritable bête noire du TFC. Pour vous dire, Toulouse n'a pas gagné contre Lyon sur leurs 13 dernières rencontres, soit 2 nuls et 11 défaites, et la dernière victoire du TEF remonte à 2014 au Stadium.
Exactement, exactement. Ça fait vraiment longtemps que nos Toulousains n'ont pas remporté de rencontre face à Lyon. 13 matchs, toutes compétitions confondues, si on se rappelle, la dernière victoire c'était en 2014, voilà. Une victoire de Buzyn, c'est un temps, j'ai envie de dire, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nos amis lyonnais qui sont un peu homogènes cette saison. Voilà, sur les derniers matchs à domicile, c'est 3 victoires seulement au Groupama Stadium. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus performant. On l'a dit du coup, 4 victoires sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. On a l'impression que ça va être compliqué, Tom, cette rencontre, non ?
Ouais, ça va être compliqué, mais après, comme on a dit, ils ont quand même des pièces majeures absentes. Comme surtout Barcola sur le plan offensif.
Barcola, je te rectifie.
Barcola. Ouais. Et sur le plan offensif, du coup, et vu qu'il nous manque Nicolaisen en défense, peut-être que ça va un peu équilibrer les choses. Et puis depuis 2014, on n'a pas gagné. Cette saison, il y a un peu de mieux, vu que c'est un match nul. C'est pas une défaite, donc on peut espérer une victoire ce soir, je pense.
On peut espérer une victoire ce soir. En tout cas, cette victoire, elle nous ferait du bien. Enzo, cette victoire, grâce à celle-ci, on pourrait du coup revenir à hauteur de Clermont à la 11e place.
Et tout à fait, oui, parce que Toulouse, c'est 12e avec 38 points. Ils sont à seulement 2 petits points de Clermont. Donc cette 11e place, elle est pas loin. Et après la 11e place, il y a le top 10, donc on y croit. Et Toulouse, ils sont aussi à 12 points de Strasbourg, donc, qui est le premier relégable. Donc Toulouse est assez tranquille pour ce qui est de la relégation.
Ouais, c'est ça. En tout cas, la relégation, elle est faite à 98-99%. Allez, en tout cas, on peut dire qu'elle commence à ne plus être dans les têtes de nos violets. Et tant mieux. Au moins, c'est une première réussite cette saison. En attendant peut-être la deuxième, qui serait une victoire en Coupe de France, voilà, au Stade de France, dans quelques semaines. On en parlera, bien sûr, dans une édition spéciale d'ici quelques jours. J'ai envie de parler de l'attaque du Toulouse FC. C'est 46 buts après 30 journées de Ligue 1 Uber Eats. On va attaquer à la 31e minute et il y a moyen déjà d'avoir un total qui explose ce auparavant. En tout cas, actuellement, le meilleur total du club à ce stade d'une saison en Ligue 1 Uber Eats, c'était depuis 1985-1986, à l'époque on n'était pas né, 48 buts de notre FC, là c'est 46, voilà, en 31 journées on a l'occasion de faire largement mieux. J'ai l'impression qu'on a des hommes en forme, Enzo, côté attaque.
Et oui, tout à fait. Déjà, on peut citer notre Dalinga qui est buteur sur les 6 dernières victoires de Toulouse en Ligue 1. Et puis globalement, il est meilleur buteur du TEF avec 12 réalisations en Ligue 1.
Exactement. Chiz Dalinga, l'homme en forme cette saison, en tout cas en 2023. Le Néerlandais s'affirme de plus en plus comme l'attaquant le plus redoutable du Toulouse FC. Quoique, il y a également Fares Chaibé, on en parlera juste après. Mais il y a aussi Denis Genro au milieu de terrain qui, après une grosse performance face à Montpellier, peut en tout cas espérer être titularisé, Enzo, face à Lyon.
Tout à fait, oui. Joueur à suivre. Je pense que ce serait logique qu'il continue à remplacer De Jegere suite à cette absence, et ça ferait une deuxième titularisation. Il va pouvoir confirmer après son bon match face à Montpellier. Il avait, on le rappelle, fait une passe décisive lors de ce match.
Pas facile quand il y a des joueurs au milieu de terrain comme Brecht de Ligereux, comme Spirings ou encore comme Renko van den Boomen. On se rappelle, on a des bons souvenirs en tout cas l'année dernière en Ligue 2, Tom, de Denis Genro.
Ah, Denis Genro, il m'avait impressionné l'an dernier. C'était qu'un bon joueur et dès qu'il rentrait, il apportait beaucoup de vitesse dans le jeu avec une très bonne vision. Et là, c'est vrai qu'on le voit moins cette année. Donc j'espère que ce soir, il pourra briller à nouveau.
Exactement, on l'espère le voir en tout cas aligné dans ce 11 de nos Toulousains. En attaque, bien sûr, il y a le récent international algérien, jeune crack, provenant du coup de Bron, pas loin de Lyon, qui va jouer contre son club de cœur, Fares Chaibi, qui est très décisif, Enzo, cette saison.
Et oui,
et c'est en ce moment.
Il a déjà marqué face à Annecy et à Montpellier sur les deux derniers matchs. Il est auteur de 5 buts et 4 passes décisives pour sa première saison en pro.
Exactement, et sa première saison en pro, il commence à impressionner. Actuellement, on comprenait pas trop pourquoi il était sur le banc, à l'instar par exemple de Raphaël Ratao. Là, clairement, en son absence, en l'absence du Brésilien, je pense qu'il débutera cette rencontre. Et il faut aussi notifier que là, on comprenait pas, mais là, on comprend un peu mieux, parce que là, c'est le super sub toulousain, Fares Chaibi, il rentre face à Annecy et marque le but de la victoire à la 84e minute. De même, face à Montpellier, où il marque dans les 10 dernières minutes de jeu, on a l'impression qu'il est en grande forme cette saison. Du moins, il faut le voir grimper et monter en puissance durant les prochains matchs. Et on écoute tout de suite Philippe Montagnier, qui était en conférence de presse, qui nous parle de Fares Chaibi, sa petite pépite.
Faut bien penser que Fares est un jeune joueur qui n'avait même pas fait un match professionnel la saison dernière. Donc forcément, le plus important déjà, c'est bien de le gérer pour qu'il nous fasse une saison de bout en bout. Le plus dur sur les jeunes joueurs comme ça, prometteurs, c'est de contrôler, de maîtriser leur fougue. Moi, je veux que Fares soit performant jusqu'au 2 juin. Et on sait très bien pour une première saison en pro, mais à chaque fois, ce qui est bien, c'est quand il démarre les matchs, il en a démarré pas mal, quand il rentre, il arrive à amener sa qualité. Et comme c'est un jeune joueur, il progresse, et en progressant, il améliore aussi le jeu de l'équipe. J'ai rencontré son papa à Annecy, je l'ai félicité, son papa, pour l'éducation qu'il a donnée à Fares. C'est quelqu'un de vraiment très bien.
Voilà, les mots touchants, en tout cas Philippe Montagné, qui en a émis plus d'un en conférence de presse, Fares Chaabi, véritable crack, en tout cas à en devenir. On l'attend au tournant face à son club de cœur, l'Olympique Lyonnais, ce soir à 21h. Bradley Barcola n'est pas présent dans cette rencontre, mais il y a quand même deux joueurs à suivre côté Lyonnais. Je ne sais pas qui veut commencer, Enzo ou Tom, comme vous voulez.
Moi, je vais dire Alexandre Lacazette. C'est le troisième meilleur buteur de Ligue 1 et il a 18 buts cette saison. Donc ouais, homme à suivre, c'est sûr.
Ah, c'est vrai que depuis son retour d'Arsenal, on pensait pas que le projet, on revient aux origines de Jean-Michel Aulas allait marcher. En tout cas, ça n'a pas toujours été le cas. Finalement, avec Dejan Lovren ou avec Corentin Tolisso, ça est en train de payer. Bon, tu vois, on en voit la forme avec cette arrivée d'Alexandre Lacazette qui, malgré ses quelques dernières saisons pas forcément prolifiques à Arsenal, revient. et devient le troisième meilleur buteur de Ligue 1. D'ailleurs, quand même, il y a quand même Kylian Mbappé, Jonathan David. Donc, c'est des monstres qui sont à côté de lui. Et il est toujours en forme avec 18 buts cette saison. Voilà, c'est un mot sur Alexandre Lacazette, un joueur dont il faudra se méfier. Également, moi, je pense à un joueur qui s'appelle Ryan. Tu nous en dis plus, nous en dis plus, Tom.
Ouais, Ryan Cherki, il fait un très bon duo offensif avec Lacazette. On les voit souvent combiner les deux sur le terrain. Et oui, il faudra se méfier surtout de lui sur le terrain.
Décisif la semaine dernière, en tout cas d'une passe décisive face à Rennes. Voilà, justement pour Bradley Barcola qui ne sera pas là. Ryan Cherki, attention, on ne sait pas si ça sera Soiseau qui sera sur son côté, peut-être, je m'en doute, ou peut-être Kamenzi. Mais en tout cas, Ryan Cherki est aussi... un joueur dont il faudra se méfier, en tout cas sur l'aile. Allez, maintenant, on va passer en bref le match pour le MHSC qui affrontera Lille à des Dogs qui sont en forme, Tom, n'est-ce pas?
Ouais, ils sont en bonne forme. Donc, c'est à 16h30 ce samedi. Donc, le LOSC reçoit Montpellier. Au match aller, faut pas oublier que c'était les Nordistes qui s'étaient imposés en Occitanie sur le score de 3-1. On se souvient du match assez mémorable de Jonathan David, auteur d'un doublé, et Angel Gomez avait marqué le troisième but côté des Dogs. On rappelle que le LOSC reste sur une défaite et est 5e de Ligue 1 alors que Montpellier est 13e. Les hommes de Michel Derzakarian restent sur un revers à domicile face au TFC 2-1. Mais pourtant, il faut rappeler quand même qu'ils étaient sur une série de 7 matchs sans défaite. Donc attention à Lille.
Et Lille qui est un jeu plutôt attractif, franchement. Ils disputent une course à l'Europe difficile et on pense pouvoir les voir en Europa League cette saison, n'est-ce pas, Enzo?
Oui, ils sont cinquième, si je ne dis pas de bêtises. Donc, oui, et puis leur attaquant très très solide, Davis, 19 buts cette saison, c'est ça?
David. Oui, cette saison. Pardon. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, exactement. Et puis, honnêtement, ouais, c'est une équipe qui sait jouer au ballon, qui a des défenseurs centraux toujours aussi performants. On se rappelle du match de José Fonte et d'Alexandro qui avait offert la victoire au Stadium face à Toulouse. Un des matchs de la saison côté toulousain. En tout cas, je recommande à tous d'aller se revoir cette rencontre si vous n'étiez pas au Stadium parce qu'elle était extrêmement intense et c'était deux oppositions de style très, très intéressantes. On va partir maintenant sur la Ligue 2. Nos équipes Occitane, bien sûr, qui sont toujours dans la course au maintien, ou du moins certaines ont sorti un pied de la zone rouge. On pense à Rodez, Nîmes, Pau notamment. Enzo, tu nous fais un petit tour du coup de ce qui se passe en Ligue 2 Bégaté.
Tout à fait, 30e journée de Ligue 2, ça se jouera ce samedi à 19h. Donc, premier match, Rodez contre Laval. Rodez est 14e de Ligue 2, il joue contre Laval, le premier relégable. 3 points seulement séparent les deux équipes. Laval est sur une série de 6 défaites consécutives. Rodez, quant à eux, est la pire équipe de Ligue 2 à domicile, avec seulement 14 petits points remportés en 15 matchs. Ensuite, Nîmes qui va jouer contre le Havre. Nîmes est 19e de Ligue 2 et il joue contre le Havre, premier du championnat. Dans cette course au maintien plus serrée que jamais, 3 points sont nécessaires aux Nîmois pour espérer continuer à évoluer en Ligue 2 l'an prochain. Cependant, le Havre n'a perdu qu'une seule fois cette saison en Ligue 2 et c'était il y a 28 matchs en août 2022. Ensuite, dernier match, Sochaux face à Pau. Pau, qui est 15e de Ligue 2, se déplace chez le 3e au classement Sochaux. Pau est à seulement 3 points de la zone rouge, donc n'a pas le droit à l'erreur. Sochaux a cependant la meilleure attaque du championnat en ayant trouvé 49 fois le chemin du filet cette saison.
Ouais, Sochaux, Le Havre, ce sont des équipes compliquées pour nos clubs occitans. On rappelle quand même Le Havre qui est leader de Ligue de BKT avec 61 points. Ils sont pas loin d'officialiser leur montée en Ligue Ibérique la saison prochaine. Et Sochaux qui se bat actuellement pour la deuxième place, en tout cas avec Bordeaux. Il y a 4 points qui séparent les deux équipes. Et Sochaux 3e se doit de faire un résultat. Ce week-end, bon, parfait. Maintenant, on va vous laisser avec une petite pause musicale. Voilà, maintenant c'est Breakfast in America de Supertramp. Allez, parfait, c'était Breakfast in America de Supertramp. Et maintenant, on va passer à notre partie rugby. On va parler d'Ovalie avec, bien sûr, le meilleur représentant de ce sport, le Stade Toulousain, qui affronte Lyon, le Loup, ce week-end, donc à 21h05, pour clôturer cette journée de top 14. Nos stadistes sont premiers, le Loup est quatrième. Ça va être un match disputé, surtout via le passif de ces deux équipes. On va en parler du coup dans quelques instants. Justement, on va aborder les compositions probables, car actuellement, elles ne sont pas sorties, ces compositions du côté de nos deux équipes. Alors Tom, qui sera aligné dans le 15 du Stade Toulousain ?
Eh bien, au Stade Toulousain, on devrait retrouver une première ligne à Cyril Bail, Piato Movaca et Dorian Allegri. Movaca qui habituellement remplaçant. Là, va remplacer Julien Marchand, donc qui était blessé, on ne savait pas trop si c'était une entorse contre les Sharks ou quoi. Oui, là, il est bien blessé, du coup, c'est Guillaume Cramon qui sera sur le banc, l'autre talonneur du stade. En deuxième ligne, on devrait retrouver Thibaut Flamand et Emmanuel Miafou, le surpuissant australien, toujours utile de l'avoir dans une équipe. Troisième ligne, on devrait avoir Jack Willis, l'anglais qui a prolongé cette semaine avec le stade jusqu'en 2026. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les rouges et noirs. Alban Placine et Alexandre Roumat devraient porter les numéros 7 et 8. Charnière, évidemment, numéro 9 et capitaine Antoine Dupont. Ça, voilà, on ne le présente plus, associé à Romain Tamac. Aux ailes, ça devrait un peu bouger, puisque c'est Dimitri Delib qui devrait remplacer Mathis Lebel en vacances cette semaine. Et Arthur Retière qui devait prendre le numéro 14. Pita Aki au centre et Pierre Loubarassi Au centre aussi, 13, il faut rappeler que Pierre Loubarassi, c'est l'ancien Lyonnais. La saison dernière, il était à Lyon. Et au numéro 15, on ne l'a pas vu depuis 2 semaines, ça devrait être Melvin Jaminet. Donc il sera surveillé quand même, hein, pour voir, on espère en tout cas qu'il jouera pour lui. Et sinon, pour le reste du banc, donc Guillaume Cramon, le jeune espoir toulousain sur le banc, au talonnage. Rodrigue Netti et Charlie Faumina, de retour dans l'effectif, eux seront au poste de pilier. Richie Arnold, habituel titulaire en deuxième ligne, sera sur le banc avec Reinhard Testat, le Sud-Africain, meilleur plaqueur de l'équipe du Stade Toulousain. Et Martin Pagerello en demi-mêlée, Ange Capuezzo et Thomas Ramos.
Exactement, Tom, on a retrouvé du coup, tu as cité un autre Toulousain, on a retrouvé du coup deux têtes qui nous manquaient bien à l'entraînement aux côtés du Stade Toulousain, c'est ça?
Oui, pendant un mois, on s'est passé des services de Sofiane Guitoun, le trois-quarts centre français, et de retour, il était touché au mollet. Et le Stade a aussi enregistré à l'entraînement le retour d'Ange Capuezzo, l'international italien, touché aux omoplates pendant la fin du tournoi à destination. Il avait loupé la fin du tournoi avec l'Italie, donc ça avait été un coup dur pour lui, il est revenu à Toulouse depuis.
Parfait, maintenant du coup, le Stade Toulousain va affronter Lyon, et c'est aussi la bête noire de nos stadistes. Tom, tu nous expliques pourquoi ?
À Lyon, ça ne réussit pas à Toulouse en tout cas. Depuis 2019, les deux équipes se sont affrontées 6 fois, et donc on compte simplement une victoire pour le Stade Toulousain, c'était l'an dernier, en 2022, et sinon c'est 5 défaites. Donc il faudra être vraiment vigilant, d'autant plus que Lyon cette année fait vraiment une très belle saison.
Exactement, ouais. Si on va plus loin, depuis 10 rencontres, c'est seulement 2 victoires donc, du Stade Toulousain. Franchement, on se pose des questions, on espère que cette série noire sera cassée, car Lyon a remporté 7 de ses 10 derniers matchs face à Toulouse, et il y a eu donc un petit match nul entre les deux équipes en 2017. Oui. Et voilà, c'est une série qu'on aimerait tous voir se terminer, n'est-ce pas, Tom ?
Ah bah oui, c'est sûr, parce que Lyon, mais ça va être compliqué parce que Lyon est quand même un quatrième. Ils sont bien dans la course à l'Euro pour la saison prochaine, mais je pense qu'avoir 4 points de plus, ça leur ferait quand même plaisir aux hommes de Xavier Garbajosa.
Exactement. Je me rectifie, hein, c'était en 2018, pas en 2017.
2018.
C'était 16-16. C'était la première journée de top 14 d'ailleurs. C'était en 2018, donc 16-16, un seul match nul. Il y a des probabilités qu'on revoie un match nul ce week-end à Ernest Vallon ?
Non, je pense pas, parce que c'est quand même deux équipes qui jouent beaucoup. Plus Lyon, beaucoup plus cette année. Donc, il y a quand même pas mal de. Surtout, ils ont pas mal d'atouts offensifs, comme Ethan Dumortier, auteur de 9 essais, deuxième meilleur marqueur du championnat. Il aurait sans doute été meilleur marqueur s'il avait été pas sélectionné avec l'équipe de France pendant le tournoi. Mais oui, il faudra faire attention à lui.
Exactement, c'est deux équipes qui scorent beaucoup, qui marquent beaucoup d'essais. Tu l'as dit, 530 côté toulousain et seulement 5 points de moins côté lyonnais, c'est 525 points marqués. En défense, les Toulousains en plus sont beaucoup plus confiants, 371 points seulement encaissés, c'est le meilleur taux, le meilleur ratio avec le Stade français. Honnêtement, on sait pas de soucis par rapport à la défense et à la solidité de nos Toulousains, Tom.
Oui, non, quand au centre on a Pitaki et Pierre-Luc Barassi, ça c'est quand même très solide. Et puis surtout Reinhard Testat, le Sud-Africain, la troisième ligne, qui devrait revenir sur la feuille de match, 136 plaquages cette saison.
Parfait, on passe aux hommes à surveiller. Personnellement, j'ai envie de pointer du doigt, du coup, toujours hein, forcément Antoine Dupont, 4 passes décisives lors de son dernier match, un match complètement maîtrisé du coup face aux Sharks. Est-ce que tu peux nous parler du coup d'Ethan Dumortier, qui est vraiment celui qu'il faut aussi surveiller?
Alors j'en ai parlé, il est formé à Lyon, ce joueur, c'est le deuxième meilleur marqueur d'essai du championnat. Il était annoncé pendant un temps la saison dernière au Stade Toulousain et il a décidé de prolonger avec Lyon. Donc il a fait le bon choix puisqu'il réalise de très bonnes performances avec cette équipe. Donc il faudra se méfier de lui, bien le surveiller.
Ouais, exactement. Tu as un joueur, toi, que tu as envie de voir performer ce week-end, Enzo ?
Ouais, moi je vais surveiller surtout Melvin Jaminet. 2 semaines sans feuille de match, il fait son retour là. Et c'est un joueur qui déçoit rarement, donc je pense qu'il faut vraiment surveiller cet homme.
Ouais, d'accord, il est fiable, Tom Jaminet.
Ah, très fiable, mais après, le problème, c'est qu'il est derrière Thomas Ramos dans la hiérarchie au poste d'arrière. Donc, être derrière Thomas Ramos, c'est jamais facile. Donc on espère qu'il va jouer.
C'est sûr, c'est toujours très difficile d'être derrière du coup celui qui pourrait être le joueur le plus performant cette saison côté Stade Toulousain. Allez, maintenant on passe aux autres rencontres de nos équipes occitanes en top 14. Il y en a en tout cas des plus intéressantes. On va commencer par la section paloise qui reçoit l'ASM, ASM Clermont. Donc, on peut dire, Tom, une rencontre de bas de tableau avec deux équipes qui sont un peu au coude à coude à quelques points. 37 points côté section paloise qui quand même joue le maintien, essaye de ne pas tomber dans la zone relégable. Il n'y a que deux points qui séparent la section paloise de l'USAP. On parlera du SAP tout à l'heure. 35 points, les Perpignanais sont pas loin de Pau à la 13e place. 12e et l'ASM c'est 10e avec 45 points. Il y a du coup une bonne petite avance du Clermont avec 8 points. On peut dire en tout cas que la rencontre, pas jouée d'avance, mais en tout cas il y a un petit avantage côté Clermont, hein, n'est-ce pas?
Oui, clairement, depuis qu'ils sont ils ont été repris par Christophe Urios, l'ancien manager de l'UBB, c'est vraiment, on sent une équipe plus en confiance, et puis ça va être surtout, mais ils n'ont plus rien à jouer cette saison.
Ben justement, ouais, tu l'as dit, Urios qui fait un travail, qui commence à, petit à petit à transformer cette équipe, hein, ça va venir avec le temps, on se rappelle, hein, avec Bordeaux, c'est les derniers demi-finalistes de top 14 la saison passée. On a cité l'USAP qui était juste du coup 13e derrière l'accession paloise. En tout cas, les Perpignanais vont se rendre à Toulon, 6e avec 52 points pour le compte donc, de cette 22e journée de top 14. Les Perpignanais qui se doivent de gagner du coup pour revenir sur les Palois, en tout cas à hauteur de la section. Voilà, 35 points, 2 points, on l'a dit, qui séparent les deux équipes. C'est une rencontre que nos Perpignanais doivent aller chercher. Ça va être compliqué quand même d'aller chercher Toulon à ce stade de la compétition chez eux. Il reste 10e du coup, 34 points en 10 matchs à domicile. Maintenant, on va parler de Montpellier face à Castres. Il y a un beau derby qui se prépare, derby entre autres, entre deux équipes qui étaient finalistes l'an passé en top 14. Cette rencontre, elle a un goût du final sans l'être, en fait, finalement, vu que les deux équipes sont moins performantes cette saison, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ben, c'est souvent le syndrome des équipes qui gagnent en championnat et qui sont finalistes, c'est que la saison après, c'est une saison blanche pour les deux équipes. Le Stade l'an dernier était champion il y a 2 ans et résultat, ils n'ont rien gagné la saison dernière. Donc ouais, c'est une finale sans lettre finalement.
Parfait, parfait, parfait. C'est une finale sans lettre en tout cas pour vous rappeler au classement. Ces deux équipes sont pas au coude à coude, mais presque. Il y a 8 points aussi qui les séparent. Montpellier est 9e du top 14 avec 48 points. Donc à peu près 6 points de la 6e place toulonnais significative, donc de phase finale. Très compliqué. On voit pas les Montpellier aller chercher cette 6e place, non, Tom?
Non, j'y crois pas, honnêtement. Ils ont plus aussi pas grand chose à jouer, juste à part se préparer pour la prochaine saison.
Exactement, c'est peut-être le moment de la reconstruction pour Montpellier, mais en tout cas qui doit faire bonne figure en accueillant Castres, 11e, qui a 40 points, à 8 points donc de Montpellier, on l'a dit. C'est une mauvaise saison aussi pour les Castrés, pour le CO qui n'est qu'à 3 points du coup de Pau et à 5 points de l'USAP. C'est pas, l'urgence n'est pas au maintien, mais en tout cas, c'est rien n'est fait en tout cas cette saison. Allez, on va parler des autres matchs de nos équipes occitanes, cette fois-ci en Pro D2. Enzo, tu nous en dis plus?
Tout à fait, donc on a le SU Agen qui l'a emporté hier soir 38-12 sur la pelouse du Stade Aurillacois. Ils consolident donc leur 3e place. Nos voisins de la côte méditerranéenne, Béziers, jouent à domicile ce soir contre les derniers du championnat, Massy-Essonne. Montauban se déplace chez le 4e de Pro D2, le Stade Montois. Carcassonne, avant-dernier du championnat, reçoit Vannes, 5e de Pro D2. Et enfin, Colomiers, 8e, jouera à domicile contre le 13e, Rouen.
Allez, parfait, on va fermer cette page de rugby à 15. On passe maintenant en 13 en quelques mots. Alors, le Théo, le Toulouse Olympique, deuxième depuis le début du championnat. Donc, ça fait 8 matchs que le Championship a repris. Ils possèdent donc 12 points, à égalité avec Sheffield qui est 3e. Ils vont se déplacer sur le terrain des Anglais de Keighley qui est 6e du coup avec 8 petits points, 4 longueurs d'avance de moins sur le Théo. L'enjeu pour nos Toulousains, c'est de recoller à la première place détenue par Feverstone avec du coup 16 points. Il y a 4 points d'écart qui séparent les deux équipes. Allez, on ferme définitivement cette page rugby. On va parler du basket et de Pau, l'élan béarnais avec Tom.
Oui, ils iront défier Dunkerque à 6 matchs de la fin dans la saison régulière. Les Béarnais, ils ont impérativement besoin de points. Eux qui restent sur une lourde défaite le week-end dernier face à Monaco. Les Palois, ils sont premiers relégables. Et ils devront compter sans deux de leurs hommes forts avec les forfaits sur blessure de Vitalis Chikoko et Enzo Charvin.
Parfait, alors on a fini avec ce journal des sports. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bien sûr, on se retrouve en début de semaine. Merci à vous.